Et maintenant, dans le studio marseillais de Fréquence Mistral, on accueille Pablo Ligère de Palona Environnement. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Palona Environnement veut améliorer les écosystèmes marins et terrestres. Et pour ça, elle a lancé le projet NetSea autour de Marseille. L'idée, c'est de récupérer en faisant des plongées les déchets marins et notamment les filets fantômes de pêche, puis de les recycler en bijoux et accessoires grâce à la marque Sauvage. Pablo Ligère, vous êtes présent et responsable, vous êtes président et responsable du pôle scientifique et technique de l'association Palona Environnement. Vous êtes aussi plongeur scaphandrier. C'était quand votre premier face-à-face avec un filet fantôme? Est-ce que vous pouvez aussi définir ce que c'est?
Alors mon premier face-à-face avec un filet fantôme, ça date de quand j'ai débuté la plongée, il y a une petite quinzaine d'années. En tant que plongeur loisir débutant, on rencontre pas mal de choses en mer. Et les filets fantômes, les filets de pêche, ça fait partie des objets qu'on peut observer sous l'eau. Et ça peut être assez impressionnant, surtout quand on est jeune plongeur et jeune débutant. Donc qu'est-ce qu'un filet fantôme? Un filet fantôme, c'est un filet de pêche qui a été perdu en mer. Il peut y avoir énormément de raisons différentes. Ça peut être rarement des actes de vandalisme, mais en général, ça va plutôt être lié à des accidents. Par exemple, une tempête qui déplace le filet, les bidons en surface qui permettent de repérer le filet en surface pour que le pêcheur puisse le récupérer. Si ces bidons se décrochent, le filet va couler, et à ce moment-là, le pêcheur ne va pas pouvoir le récupérer. Et le filet va continuer son rôle de pêche, et donc c'est ce qu'on appelle la pêche fantôme, c'est parce qu'il va continuer à pêcher sans que le poisson ou le filet lui-même ne puisse être récupéré par le pêcheur, et donc il va y avoir une pollution dans le temps avec une pêche passive du filet pendant des nombreux mois.
Les pêcheurs font aussi écho d'un problème qui est la carnasse. La fameuse carnasse, c'est une espèce de boue qui s'accroche au filet et qui sont plus durs à remonter à cause de ça.
Ouais, il y a pas mal de choses qui peuvent aussi rendre les filets beaucoup plus lourds. Donc parfois c'est de l'envasement. En été sur nos côtes, les plongeurs observent souvent les algues filamenteuses. Ce sont des sortes de grandes mousses qui peuvent s'accrocher dans les filets, qui rendent les filets très très lourds. Dans certains autres endroits, on a d'autres soucis. Par exemple, dans certaines lagunes comme l'étang de Berre ou l'étang de Thau, où il y a des pullulations de méduses en été, qui vont se coincer dans les filets, qui rendent les filets très très lourds et qui vont couler. Et ça peut être des raisons de perte de filets.
Et pour vous aussi, alors, c'est lourd de les récupérer. Votre idée, c'est de les récupérer et de les enlever de la mer, à part si elles ont bénéficié à des écosystèmes. Des fois, vous laissez les filets au fond de la mer.
Oui, alors, on procède par étapes. Donc, quand on nous signale un filet, donc c'est soit les pêcheurs professionnels avec qui on est en lien assez étroit et avec qui on discute beaucoup, sur toute la côte marseillaise et même un petit peu au-delà, avec les clubs de plongée, bien entendu, parce que c'est eux qui sont aussi vigilants sous l'eau et qui observent les filets. Donc, une fois qu'on a un signalement, on va plonger sur le filet pour faire une étude d'impact. On va analyser l'impact du filet, vérifier que le filet est bien présent au bon endroit, là où on nous l'a signalé, et voir quel impact il va avoir sur l'environnement. Donc, en général, la grande majorité des cas, ça va être des filets qui vont être néfastes pour l'environnement, pour plusieurs raisons. Donc on a parlé de la pêche fantôme, mais c'est pas le seul impact des filets de pêche. Donc ils vont continuer à pêcher du poisson, mais c'est aussi des filets qui risquent de boucher les trous. Donc la roche, surtout dans notre région, elle est caffie de petits trous dans lesquels on va retrouver les espèces cryptiques. Ce sont des espèces qui aiment se cacher dans les trous. Par exemple, les murènes, les langoustes, les homards, la plupart des crustacés, etc. Donc ça risque de boucher les trous et donc de simplifier le milieu. Ça va détruire un habitat. Les filets, c'est du plastique. Ils sont en polyamide. Donc avec le temps, au bout de plusieurs années, dizaines d'années, ils vont se dégrader en microparticules de plastique et contribuer à ce qu'on appelle la plastification des océans. Donc c'est dans la continuité. Mais aussi, donc, ça peut avoir un impact positif dans certains cas. Si, en général, pour les plus vieux filets qui ont été perdus il y a plusieurs dizaines d'années, s'ils ont été perdus dans du sable, par exemple, ils peuvent créer des habitats. Ils vont permettre une complexification du milieu. Donc au milieu du sable, où normalement il n'y a pas grand-chose, on va se retrouver avec des petits oasis de vie, notamment pour les juvéniles de poissons ou pour les petits crustacés qui vont pouvoir utiliser ce filet comme un abri et se protéger des prédateurs. Donc, de temps en temps, ça, c'est positif, c'est assez rare. dans la plupart des temps, on va les retirer. Donc on a notre première phase d'étude d'impact. On travaille donc avec l'université d'Aix-Marseille, avec le projet GhostMed, qui est un suivi scientifique qui permet d'évaluer l'impact des filets de pêche. Et donc dans un second cas, dans un second temps, on va plonger pour récupérer le filet à l'aide de différents outils. Donc en général, on va utiliser des parachutes de levage, c'est des sortes de gros sacs qu'on remplit d'air qui permettent de remonter le filet à la surface.
Parce qu'il est trop lourd à remonter à main nue.
Oui, parce qu'il est beaucoup trop lourd pour être remonté à main nue, et surtout beaucoup trop encombrant. En plus du poids, il y a le volume ou la longueur des filets qui peuvent être assez importantes. Donc on travaille soit avec ça, soit directement avec les pêcheurs. Les pêcheurs, ils sont équipés d'une roue à l'avant du bateau qui permet de remonter le filet plus facilement. Et donc ça, on travaille en collaboration avec eux, mais aussi avec les parcs, enfin les aires marines protégées, que ce soit le parc marin de la Côte Bleue ou le parc national des Calanques pour les Bouches-du-Rhône, mais il y a aussi le parc national de Port-Cros dans le Var, etc. Il y a d'autres aires marines protégées qui ont aussi des missions de récupération de déchets, dont les filets de pêche. Et également avec les affaires maritimes, qui, en plus de leur pouvoir de police, de leur rôle de police en mer, ils ont aussi un rôle de protection de l'environnement, et ils mènent quelquefois un petit peu des actions comme ça, et on travaille ensemble de temps en temps sur des remontées de filets ensemble avec eux.
Alors selon l'ONU, c'est 640 000 tonnes de matériel de pêche qui sont abandonnées chaque année dans les océans, donc c'est énorme, des filets qui mettent 600 ans à se dégrader en mer, et durant les premiers 6 mois, qui continuent à pêcher énormément. C'est ce type de chiffre qui vous a alerté et qui vous, et vous êtes dit, mais on va créer quelque chose pour les retirer de sous l'eau, quoi.
Ouais, exactement, en fait. Au début, sans connaître trop la problématique des filets de pêche, le premier contact qu'on a, c'est quand on fait de la plongée loisir et qu'on observe ces filets abandonnés, avec parfois des poissons morts ou des crustacés morts à l'intérieur, ou parfois qui arrachent le corail qu'on a dans notre région. Donc on a différentes espèces de corail, corail mou et coraux durs aussi. Et donc c'est un impact visuel, et c'est ça qui nous a dit il faut qu'on fasse quelque chose. On est plongeur, on est donc de formation en biologiste marin, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc on a monté le projet NETSI en 2016, même si le projet est un petit peu plus vieux que ça. Les premières idées datent entre 2010 et 2015, quand on avait commencé la plongée, mais on a vraiment lancé le projet en 2016. Et donc en se renseignant sur ce qui est fait dans le monde et un petit peu la problématique, on s'est rendu compte que c'est des volumes et des poids qui sont monstrueux, 640 000 tonnes.
C'est énorme.
Qui sont des vieux chiffres en plus. Donc il n'y a pas eu d'actualisation de ces valeurs-là. De mémoire, c'est de 2012, ces valeurs-là. C'est quelque chose d'assez impressionnant.
Et alors, combien de plongées vous faites par an aussi? Et combien de tonnes de filets vous avez pu déjà récupérer?
Alors, on a une activité bénévole, donc on fait un petit peu avec les moyens du bord et les disponibilités des plongeurs. Alors, même si on arrive à tendre vers une professionnalisation de notre activité, ça reste encore assez accessoire. On a fait, en moyenne, chaque année, on fait une cinquantaine de jours de plongée, à peu près, ce qui représente entre 100 et 150 plongées, comme si on va en faire plusieurs par jour. En général, sur une sortie en mer, on part à 4 personnes, ça permet de faire 4 ou 5 plongées dans la journée, en moyenne.
Pour le même filet, 4 ou 5 plongées pour le même filet.
Alors parfois même beaucoup plus. Alors, certains filets vont être très rapides à faire et ils sont assez simples, donc en une ou deux plongées, on peut les remonter. Mais il y a eu d'autres filets, donc j'ai le cas là cette année qu'on a fait en collaboration avec des pêcheurs, avec le parc marin, le parc national des Calanques et avec les affaires maritimes, qui était un long filet qui était au niveau du cap Sormiou dans les Calanques, qui faisait à peu près 500 mètres de long. Et pour ce filet, on a mis, de mémoire, c'était 15 plongées, je crois, pour le remonter. Il y avait toute une partie qui était assez facile parce qu'elle était dans le sable, toute une partie qui était coincée dans la roche. Et donc là, ça a été très long à décoincer pour ne pas abîmer justement les coraux et les gorgones, qui sont des espèces assez sensibles, qui étaient prises dans ces filets.
Ah, et ça, c'est une des pêches mémorables, une des pêches de filets de pêche que vous avez eues dans ce parcours-là. Depuis 2016, vous avez dû avoir des plongées un peu mémorables, des filets, etc.
Ouais, là, ça, c'était un des plus gros filets qu'on a remonté, et un des plus compliqués, mais il y en a eu d'autres, il y en a beaucoup. Voilà, la semaine dernière, on en a récupéré quelques-uns aussi du côté de la Ciotat, qui étaient beaucoup plus courts. Enfin, ils faisaient entre 50 et 100 mètres de long. Ils étaient compliqués, eux, parce qu'il y avait beaucoup d'algues filamenteuses qui sont invasives en été et qui font que le filet est très lourd. Et voilà, donc ça a été un peu compliqué.
Et vous avez commencé à le dire, vous profitez de ces plongées-là pour suivre scientifiquement les écosystèmes que vous voyez.
Oui. Oui, on fait aussi des suivis. Donc on a, à côté du projet de récupération de filets, à proprement parler, on fait aussi des suivis du coralligène, qui est donc un écosystème typique de Méditerranée, qu'on ne retrouve qu'en milieu méditerranéen, à partir de 30 mètres de profondeur, qui est très impacté par les filets fantômes, parce que ce sont en général des espèces à croissance assez lente. Et dès qu'il y a une perturbation, comme un filet de pêche, ça met du temps à revenir. Donc on mène une expérimentation en ce moment avec l'Office française pour la biodiversité, le parc national des Calanques et le parc marin de la Côte Bleue pour transplanter des gorgones, donc ces espèces de coraux mours qu'on retrouve en Méditerranée, et on fait un suivi dans le temps comme ça. Donc à partir du moment où on récupère le filet, on observe le filet, qu'on le récupère, on fait un premier suivi pour voir l'état des lieux de l'écosystème, on vient transplanter des gorgones, et après, dans le temps, on suit l'évolution de cet endroit.
Donc vous devez avoir une cartographie un peu du milieu marin autour de Marseille, de Toulon, la Ciotat, assez énorme, avec tous les points où vous êtes allé récupérer ces filets.
Ouais, on a commence à avoir pas mal de punaises sur la carte, surtout dans les Bouches-du-Rhône, parce que c'est là qu'on a la plupart de notre réseau, mais on va volontiers plus loin, notamment donc dans le Var, un petit peu dans les Alpes-Maritimes, et on était allé aussi en Occitanie, du côté de Perpignan, où on avait fait une mission pour l'Office français de la biodiversité et le parc du Golfe du Lion. On avait fait le tour des épaves et des récifs artificiels là-bas, donc on avait fait deux semaines de plongée, enfin deux fois une semaine, pour observer et remonter un certain nombre de filets, donc surtout sur les épaves, qui sont des lieux où il y a beaucoup, beaucoup de filets de pêche.
Et votre activité ne s'arrête pas là, parce qu'une fois que vous avez remonté tous ces filets, vous les laissez à disposition dans votre local, 72 rue du Génie, c'est ça, dans le 3e arrondissement de Marseille, où ça a changé?
Alors, ouais, 72 rue du Génie, c'était le siège social, mais en fait, le local, il est à Aix-en-Provence.
Il est à Aix.
À Céloni.
Et dans ce local-là, ces filets sont recyclés en d'autres objets, comme des petits filets pour porter les légumes, des sacs, et le plastique aussi est fondu pour faire des bijoux.
Ouais, exactement. Donc, on travaille avec l'association Sauvage Méditerranée, qui est donc porté par Emmanuel Laurin, qui avait fait une nage entre Marseille et Toulon pendant 15 jours, où il avait nagé, suivi par un voilier et des kayaks, pour ramasser les déchets. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché de lui pour monter la suite un petit peu de logique de notre activité, qui était donc de récupérer les filets. Mais très rapidement, on s'est dit, c'est bien de les récupérer, mais si on en fait quelque chose, c'est encore mieux. S'ils finissent en déchetterie, c'est un moindre mal, ils feront moins de dégâts que sous l'eau, mais si on peut les revaloriser, ça serait tout bénéfique. Et donc les filets, c'est du plastique, c'est du nylon. Le nylon, ça se recycle. Avec Sauvage, on a commencé à travailler là-dessus. Donc, soit on récupère les filets et ils sont réutilisés tels quels, comme par exemple pour faire des sacs de course, ou voilà, des petits sacs filets qu'on utilise aussi, nous, en plongée, pour ramasser les déchets. Ou alors, on transforme le plastique. Donc, il est broyé, fondu et injecté dans des moules ou en forme de plaques. Et donc, on fabrique des objets. Enfin, alors, c'est surtout Sauvage plutôt que Palana. C'est deux associations différentes, mais on travaille dans le même local et on travaille ensemble sur beaucoup de choses. Eux travaillent avec différents plastiques, notamment les bouchons de bouteilles qu'ils récupèrent lors des ramassages sur les plages, mais aussi donc les filets de pêche et le nylon. Ouais, effectivement.
Et vous avez aussi un lien avec Longitude 181. Longitude 181, qui a été fondée en 2002 par François Sarano et Vincent Holl, et qui permet de la découverte de la biodiversité dans le monde, partir à la rencontre aussi de l'océan.
Ouais. Oui, Longitude 180, c'est donc une association qui a un gros rôle de sensibilisation, surtout de l'environnement marin. Donc ils ont différents grands projets. Par exemple, un des projets phares qu'ils ont mené pendant longtemps, c'était la charte du plongeur éco-responsable. Quand on est plongeur, de faire attention à l'environnement, utiliser par exemple des savons biodégradables ou en tout cas pas toxiques, etc. Avoir des gestes sous l'eau éco-responsables, ne pas toucher quand on, quand on est sous l'eau, on ne touche rien, on observe, on regarde, on profite avec les yeux, mais on ne ramasse pas de coquillages, on ne va pas essayer de caresser un poisson ou nourrir un poisson sous l'eau, par exemple. Donc voilà, ils avaient mené ça, et donc ben, forcément, on s'est rapproché d'eux dans différentes, lors de différents événements où on s'est rencontrés, et donc on a travaillé un petit peu sur des projets comme ça, et ça permet aussi à ce qu'ils communiquent sur nos projets et de faire connaître ça pour qu'on... L'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de gens qui sont au courant de ce qu'on fait et de la problématique des filets de pêche pour avoir un maximum de signalements pour qu'on puisse ben, intervenir un petit peu partout.
Alors, on peut signaler directement un filet de pêche si on est pêcheur ou si on est plongeur aussi, amateur. On peut le signaler directement sur votre site internet.
Oui, exactement. Alors qu'on soit plaisancier ou professionnel de la pêche dans les parcs nationaux ou simplement un baigneur, un pêcheur loisir, ça peut nous arriver d'observer un filet de pêche. Donc bon, déjà, quand on est plongeur, déjà la première action, c'est de ne pas trop s'en approcher, surtout pour les plongeurs, parce que potentiellement, ça peut être un petit peu dangereux. Si on se coince dedans, bah, il est fait pour pêcher du poisson, donc il peut aussi pêcher des plongeurs. Les accidents sont très très rares, mais le risque zéro n'existe pas. Pour ça. Donc on demande aux plongeurs loisirs d'éviter de toucher les filets et donc de nous les signaler. Donc on peut nous les signaler soit sur notre site internet palana-environnement.org, soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc. Pour avoir les signalements. Et voilà, un point important, c'est si possible d'avoir des photos, parce que bien souvent on va confondre des filets pêchants et tout à fait en règle et qui ne sont pas perdus avec des filets fantômes. Donc ça nous évite de sortir le bateau et de plonger sur des filets qui en fait sont légalement ici, quoi, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, essayer d'avoir une information sur la localisation le plus précisément possible, parce que ben, quand on nous dit c'est à côté de l'île du Frioul, mais l'île du Frioul, elle est quand même grande, ça fait des dizaines de kilomètres carrés, enfin des dizaines de kilomètres de côte, et donc c'est un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin après.
Ouais. D'accord, alors à signaler sur votre site, est-ce que vous avez déjà des plongées de prévues là, pour les semaines qui arrivent ?
Alors là, il y a quand même pas mal de vent et pas mal de mistral ces jours-là, donc là pour le moment c'est un petit peu en off, mais on travaille à prévoir ça, mais oui, on a quelques filets sur la Ciotat. Donc là, on travaille avec différents clubs de plongée qui nous les ont signalés, et avec les pêcheurs, notamment Gérard Carodano, qui est le prud'homme, donc c'est un petit peu le responsable des pêcheurs là-bas, qui est très actif sur la protection de l'environnement, et avec qui on travaille beaucoup. Donc on a peut-être des plongées prévues avec lui la semaine prochaine par là-bas, et encore dans les calanques, dès que la météo le permettra, on a pas mal de jours de prévus, ouais.
Ok, bah, merci beaucoup Pablo Ligère d'être venu nous parler de Palana Environnement, une asso à suivre et un sujet intéressant pour protéger notre belle mer Méditerranée.